C'est lui qui se réserve le choix de l'heure de notre mort. Et c'est une grâce en fait, parce que c'est un poids qui serait trop lourd sur nos épaules. Et dans la confiance, en sa bonté, sa sollicitude, sa sagesse, je dis, celui qui me connaît ne va pas mettre fin à ses jours, même si c'est très dur. Ou, disons, il est appelé à ne pas le faire. S'il le fait, parce que les croyants qui connaissent personnellement le Seigneur sont quand même aussi sujets aux faiblesses. C'est combien? S'il le fait, comme cette personne qui a souffert de névralgie que j'ai mentionnée, c'était une chrétienne. C'est bien connu. Si la personne le fait, je suis sûr que le Seigneur la recueille dans les bras de miséricorde. Et c'est pas à moi de juger. Mais je vois bien que, bibliquement, l'appel qui nous est adressé est de faire confiance au Seigneur. Et de penser que tant qu'il nous laisse sur la terre, il a encore un sens pour notre existence, qui nous est caché, mais qui est important. Même la personne qui souffre, son maladie qui ne peut plus se lever, peut avoir un rôle d'importance cosmique aux yeux de Dieu. J'en suis sûr. Sa prière, le témoignage de sa fidélité à Dieu, peut avoir un retentissement dont personne qui la voit et la personne elle-même ne peut se douter. Donc, je dis, il y a une vocation à ne pas commettre de suicide, même dans un pareil cas. Mais c'est vrai que ce n'est pas, à ce moment-là, la même motivation du tout que celle de vie. Que penser du suicide, enseigné comme une part de la vie, comme une norme pour certains moments de la vie dans certaines cultures. Oui, je vous avoue que pour l'Asie, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a une population du nord canadien pour lesquelles, effectivement, les personnes qui atteignent un certain âge, qui ne sont plus vraiment utiles à la communauté, sont, d'après la norme du groupe, invitées à se suicider. C'est considéré comme la chose morale à faire pour eux. C'est vrai que ça existe. Et donc la question mérite d'être envisagée. Alors, la question porte sur ce cas-là et aussi celui où des interactions sociales conduisent, d'une façon qui est réglée dans la société en cause, par des conduites de suicide. Alors, sur ce deuxième point, j'avoue que je ne suis pas compétent. Donc, je parle plutôt de la première situation. J'analyse cette situation en fonction du dévoiement global de l'humanité et des sociétés aussi. Les normes sociales ne correspondent pas à la volonté originelle de Dieu. Dans certains cas, c'est variable, hein, selon les groupes, les cultures, etc., il y a antagonisme. Et je pense que quand le groupe prévoit une sorte d'obligation de suicide dans certaines situations pour ses membres, il usurpe une autorité qui n'appartient qu'à Dieu. Il traite ses membres comme si ses membres lui appartenaient. Je ne l'ai pas dit non plus tout à l'heure, ça fait partie des choses que parfois j'exprime, que j'ai pu écrire. Lorsque la morale simple de condamnation du suicide dit « Vous n'avez pas le droit parce que le groupe a un droit sur vous », cela ne se trouve pas dans la Bible. Et je pense qu'il faut rétorquer, non, il y a une appartenance, des obligations à l'égard du groupe. Mais la personne humaine transcende le groupe. Elle est en rapport direct avec Dieu. Chaque individu, c'est ce qu'exprime la formule « Je te connais par ton nom » que Dieu dit à chacun. L'être humain en image de Dieu n'est pas une simple cellule du corps social. Il transcende le corps social. Et du coup, le corps social n'a pas à lui réclamer la vie comme dans ces systèmes moraux de certains groupes. Voilà ce que foncièrement je le présenterai. Alors ça se lie à ce thème de réflexion que je vous ai présenté, et que là encore je n'ai pas poursuivi jusqu'au bout, hein, du mélange du suicidaire et du sacrificiel. En un sens, les personnes qui se suicident dans les groupes en cause se sacrifient aux normes du groupe. Mais parce que le système qui les y invite est un système tordu, qu'il s'agit, parce qu'il y a des divinités garantes d'idoles, de représentations humaines qui ne sont pas conformes au Dieu qui est le vrai Dieu, alors il faut dire qu'il y a une composante suicidaire, qu'il y a une haine secrète de la vie telle que Dieu l'a faite qui se cache là-dedans, dans le système moral même en cause. Voilà comment je rattacherai à ce thème du mélange de l'ambiguïté des conduites sacrificielles et suicidaires.
Une autre question ?
Où se trouve la distinction, la barrière entre le suicide, et en particulier le suicide qui se déguise en sacrifice, et le sacrifice authentique? Je crois que c'est ça la question, essentiellement. Du dehors, et pour nos instruments d'analyse, c'est effectivement pas facile à discerner. Et je pense qu'on doit dire que seul le cas de Jésus est le cas d'un sacrifice pur. Alors, les instruments d'analyse me semblent être de deux sous-catégories, disons. Il y a le caractère du divin qui est le garant ou le destinataire du sacrifice. Je pense qu'on peut montrer que lorsque ce divin est idolatrique, que c'est un divin qui déforme le visage de Dieu, il y a un aspect suicidaire, que c'est un divin qui n'honore pas le réel vivant, les valeurs de vie que le sacrifice de Jésus permet de mettre en valeur. Donc, premier axe de l'analyse, la représentation du divin qui est en cause. Et deuxième axe, alors, dans les conduites concrètes elles-mêmes, on peut trouver, me semble-t-il, des indices du caractère suicidaire. C'est ce que j'ai suggéré il y a un instant en parlant de Socrate. Socrate, c'est très noble. Socrate, ça a l'air d'être un sacrifice à l'idéal pour lequel il a vécu. Mais cet idéal, il implique une dépréciation radicale du corps. En fait, il y a là un mensonge négateur de la vie. La vie, en tout cas dans sa dimension corporelle. C'est ce genre d'indice qu'on peut chercher pour essayer de faire le partage. Mais je reconnais que nous ne sommes pas capables de le faire dans tous les cas, que nos instruments d'analyse ne sont pas assez aiguisés, fins, pour le faire, que nous ne sommes pas capables, et sans doute, lorsque le voile se lèvera, que le jugement de Dieu lui-même apparaîtra, lui qui sonde les reins et les cœurs, nous serons surpris peut-être. Mais je vous invite, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ma contribution au livre, vous invite à considérer la conduite de Jésus. Vraiment, prenez les textes des évangiles et voyez Jésus, son amour de la vie, voyez à quel point il est étranger dans toutes ces démarches à ce qui est caractéristique des conduites suicidaires. C'est très très puissant.
Dans la société, est-ce qu'on peut voir une correspondance entre la dévalorisation de la vie et le taux de suicide? Peut-être que parler de la dévalorisation de la vie, c'est difficile. Je ne sais pas si on a cette tendance.
Alors, peut-on parler d'une association dans une société donnée, un état de société donnée, entre la dévalorisation de la vie et le taux de suicide? Alors, je réponds un oui, très, très franc et massif à cette question. Je crois que ça a été montré, et qu'effectivement, c'est un des problèmes les plus aigus de notre situation contemporaine. Alors là, je cite deux auteurs qui ont développé ce thème. Il y a eu Pierre Chaunu, historien, dans Le refus de la vie. Bon, c'est un livre qui date déjà des années 70, ça c'est déjà, mais à mon avis, n'a pas vieilli, hélas, il est encore très, très actuel. Et puis, Tony Anatrella. Tony Anatrella est psychanalyste. Il a écrit plusieurs ouvrages, mais je pense tout spécialement à Non à la société dépressive, qui développe vraiment le thème que je viens de résumer et qui converge avec ce que j'ai essayé d'exprimer. C'est un chrétien, Tony Anatrella, et à partir de son expérience et de sa compétence de psychanalyste, il dit des choses que je crois très pertinentes. Alors je recommande ces divers ouvrages et en particulier ce Non à la société dépressive. Donc on évoque un triangle qui serait un triangle avec le trois sommets, la recherche de soi, la cohésion sociale et puis la tendance au suicide. Je pense que la cohésion sociale en général s'oppose au suicide, comme Durkheim l'a mis en relief, sauf peut-être dans le cas de ces populations où le suicide est la conduite appropriée d'après les normes de ce groupe à certains moments. Mais en général, la cohésion sociale va contre le suicide. En revanche, la grande ambiguïté, c'est celle de la recherche de soi. C'est ce que j'ai voulu évoquer en parlant de la volonté désespérée d'être soi-même et de pas être soi-même. Et c'est ce que Jésus a exprimé aussi par son fameux paradoxe, qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui veut désespérément être lui-même, comme je crois Judas a voulu le faire, sauver sa vie de M. Judas avec son image, il s'est perdu. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi, dit Jésus, c'est pas un tour de passe-passe, une symétrie, c'est celui qui emprunte la voie que ferait Jésus, alors là, la sauvera. La recherche de soi est radicalement ambiguë. Si elle se pose comme première et dernière, c'est la ruine. En revanche, celui qui se reçoit de Dieu, en fait, se trouve. Il reçoit le statut filial, fils ou fille de Dieu, et il est là, vraiment, lui-même. Et c'est ce que Dieu veut. Vous avez une parole de Saint Irénée qu'on a souvent citée, mais qui est très belle en effet. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu, continuait-il. Dieu veut cette affirmation de la vie humaine, dont il est lui-même l'auteur, et non pas par vanité d'auteur, parce qu'il aime cette créature, il l'a faite pour l'aimer. Mais il faut qu'elle abdique sa prétention à être par elle-même et être première et dernière pour pouvoir accéder à ce statut de, d'être plein et d'épanouissement de ses facultés dans, dans la relation à Dieu. C'est, je pense, là le rapport à cette recherche de soi. Ça peut se dire parfois, il y a certains auteurs qui l'ont dit de manière assez intéressante, en jouant sur le soi et le moi. Le moi est haïssable, mais le soi peut se recevoir de Dieu et s'aimer soi-même en tant qu'aimé de Dieu, par une sorte de ricochet de l'amour de Dieu dans l'ordre qu'il institue. Ça peut se dire en anglais avec « self et soul », c'est Chesterton en particulier qui disait qu'on ne peut jamais trop se haïr soi-même, oneself, mais qu'il faut qu'on aime sa propre âme, oneself. C'est cette dualité qui correspond au paradoxe de l'affirmation de soi, de l'épanouissement de soi. En tout cas, votre suggestion me suggère ces pensées que toujours je ne fais pas. La question donc porte sur ce que j'ai dit de la miséricorde de Dieu qui accueille le suicidaire et qui ne dresse pas face à lui sa prohibition, son commandement négatif d'emblée. Et il y a évocation du cas de Caïn au début de la Genèse. Alors ma réponse sera d'abord que je me suis mal fait comprendre. Me semble-t-il, si j'ai bien à mon tour compris ce que vous avez dit, je n'ai pas du tout dit que Dieu était favorable au suicide et qu'il approuvait le désespéré. Pas du tout, je pense que c'est le contraire. Je dis que, en dépit du caractère fautif que je maintiens, que je crois présent dans la Bible, attesté par les récits bibliques de la conduite suicidaire, Dieu qui a compassion de ce pécheur qu'est le suicidant suicidé, le recueille dans sa grâce s'il fait partie des siens. Ça, c'est bien sûr au-delà de la mort. Dieu recueille dans sa grâce ceux qui lui ont fait confiance, qui n'ont pas rejeté toutes ses offres. Mais j'ai évoqué donc le cas de cette personne que j'ai connue. Elle avait fait cette confiance au Seigneur. Elle a été submergée et je ne dis pas qu'elle est totalement irresponsable en cela, qu'elle n'est pas commis une faute, mais je suis sûr que le Seigneur l'a reçu dans ses bras de miséricorde. Mais je ne dis pas du tout qu'il est approuvé, qu'elle ait agi comme ça. Pas du tout, je ne pense pas. Le Dieu d'espérance est contre le suicide, dans tous les cas. Là, c'est ce que j'ai voulu communiquer, et je pense que vous avez compris autre chose, donc il faut le préciser. Alors, en ce qui concerne Caïn, est-ce qu'il y avait une pulsion suicidaire, disons une tentation, une tendance suicidaire très nette dans son cas? Je ne suis pas absolument sûr. Il avait la mine défaite, il était sombre. Et quand Dieu l'interpelle, hein, il répond sur un ton sinistre au Seigneur, c'est sûr. Mais il ne me semble pas qu'il affirme là une volonté de suicide, et après ça, il a peur que quelqu'un le tue. Donc, au moins dans cette crainte qu'il exprime, comme errant sur la terre, il ne dit pas désirer la mort. Et le Seigneur le protège par le sceau, la marque qu'il met sur lui, contre quelqu'un qui le tuerait. Donc,
Je pense que l'interprétation de ce chapitre de la Genèse, Genèse 4, est quand même assez complexe. La question porte sur Judas et sur ce que Jésus dit à son propos dans la prière sacerdotale, comme on l'appelle, en Jean chapitre 17, l'évangile de Jean chapitre 17, où Jésus dit qu'il a gardé tous les siens, sauf le fils de perdition, qui est Judas, afin que l'écriture fût accomplie. Et la question posée est, si Judas s'était repenti, aurait-il pu accéder au salut? Et était-il en quelque sorte la victime d'une fatalité? Je pense pouvoir répondre nettement en disant d'une part que s'il s'était repenti, il aurait trouvé le pardon. L'offre du pardon à quiconque se repent est parfaitement claire, sans autre condition dans toute la Bible. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il a eu remords, mais non pas repentance. Le texte des évangiles choisit un mot, justement, qui distingue bien. Il n'y a pas eu repentance, qui s'exprime que le fait qu'il a accompli les prophéties, que les choses se sont réalisées comme elles étaient donc sues d'avance de Dieu et étant écrites dans son plan, ne doit pas être confondu avec une fatalité. Que la notion de fatalité est une notion païenne que la Bible n'endosse pas. Cela dit, ça ne veut pas vous donner une réponse facilitante seulement, demeure un problème majeur, pour moi insoluble, qui est celui de l'action de la souveraineté de Dieu, qui n'est pas une fatalité, mais qui est une souveraineté, en cette affaire même. Je crois que pour que Judas se repente, comme chacun de nous, il faut une intervention spéciale de Dieu. Et Dieu ne l'a pas faite dans le cas de Judas. Et il y a une espèce de nécessité qui est évoquée. Jésus dit dans un autre passage, il est nécessaire que les scandales, c'est-à-dire les chutes, c'est ça le sens premier du mot scandale, que les scandales arrivent. Donc il y a une nécessité. Comment le Dieu d'amour, dont la souveraineté n'est pas un fatalisme, s'arrange-t-il, si je peux utiliser ce verbe, pour que son plan se réalise par le moyen des décisions responsables des humains, et pourtant que tout soit selon son plan? Comment Dieu n'est-il pas responsable du mal alors même qu'il est prédit par ses prophètes? J'appelle ça le mystère opaque. L'écharpe dans la raison du croyant même. Là, j'ai écrit tout un livre là-dessus. Donc, je vous y renvoie si vous voulez avoir ce que je crois avoir compris plus en détail. Le mal et la croix, c'est foncièrement le problème du mal. Donc, ma double réponse initiale à ce que vous avez posé comme question, je ne prétends pas que ça vous donne une réponse facile. C'est une façon de baliser le mystère de la révélation biblique. Je crois que nous ne pouvons pas comprendre. Je crois aussi que nous pouvons comprendre que nous ne pouvons pas comprendre. Pourquoi? Ce que j'essaie de montrer dans mon livre. Et que quand on y réfléchit, ce qui semble une grosse difficulté de la foi biblique se révèle une preuve d'authenticité extraordinaire. Voilà ce que j'essaie de montrer, mais là, j'ai pas le temps ce soir de le développer.
On va prendre une dernière question.
Quelle question? Alors l'intervention, d'une part, déplorait qu'il n'y ait pas eu assez d'exemples concrets, peut-être de données statistiques dans ce que j'ai dit, et d'autre part, pose la question de ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Que répondre à quelqu'un qui a l'impression que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue? En ce qui concerne la critique, je la reçois volontiers, mais je n'ai pas voulu développer ces aspects. J'ai avec moi quelques chiffres, mais ils ne sont pas tout récents. Hein. C'est le début de la décennie 90 dont j'ai les chiffres les plus récents avec moi. Alors je me suis dit, c'est pas la peine. De toute façon, je résumais l'avis de spécialistes de sciences humaines dont je ne suis pas, donc je voulais pas non plus entrer dans trop de détails pour cette raison. Mais je pourrais peut-être, si vous voulez, vous en trouver quelques-uns dans mon dossier que j'ai avec moi. En ce qui concerne la deuxième question, la réponse, la lumière de la Bible, à nouveau, c'est qu'il n'y a pas de réponse ultime sans la connaissance du Dieu de la Bible. Ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue pour moi, c'est la connaissance de ce Dieu qui lui donne un sens, qui m'associe à son dessein, qui me promet un fruit éternel pour ce que je fais sur la terre, parce que mon action s'y inscrit dans ce qu'il a prévu en vue d'un renouvellement radical de la création, d'une réconciliation parfaitement satisfaisante. Ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, c'est aussi la joie qu'il donne dès maintenant, et qui comprend aussi d'ailleurs la joie de l'amitié parmi ceux qui le connaissent. D'autres amitiés sont précieuses aussi, hein, mais il y a là quelque chose de fort, d'autre que tout ce qu'on connaît dans les amitiés humaines. Et voilà ce qui, à mes yeux, fait que la vie vraiment vaut la peine d'être vécue. Et quelqu'un qui ne connaît pas cela, évidemment, moi j'ai du mal à le persuader. Hein, parce que c'est vraiment le fondement de la valeur de la vie pour moi. Et en un sens, le jugement pessimiste, il correspond à ce que l'on trouve dans un des livres de la Bible, le livre de l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. J'ai essayé toutes les joies, j'ai essayé la science, j'ai essayé finalement, tout est creux, tout est vain. Si on en reste à l'humain, sans le rapport à Dieu, et que c'est pour nous rapporter à Dieu que l'Ecclésiaste écrit, mais c'est vrai que tout est vanité, alors on peut mettre en doute que la vie, il a peine d'être vécue. C'est dans la lumière du Dieu que Jésus m'a fait connaître que je vois vraiment qu'elle vaut la peine d'être vécue. Voilà foncièrement la réponse. Alors, en ce qui concerne les statistiques, en gros, en France, c'est 16 pour 100 000, qui est le chiffre des suicidés. Les tentatives, il est très difficile de les chiffrer. Probablement, on peut aller jusqu'à 10 fois plus. Et chez les adolescents, le docteur Haïm, qui avait écrit un livre sur les suicides adolescents, pensait que c'est 50 fois plus de de tentative que de suicider. Donc, voilà une indication de certains chiffres. J'ai avec moi un schéma que j'avais en fait repris de la revue Time qui montre l'évolution, mais jusqu'à la fin des années 80. Le taux des suicides des adultes a légèrement augmenté sur 30 ans, mais la différence n'est pas très très considérable. En revanche, les suicides d'adolescents ont augmenté de manière énorme de 55 aux années à 85. Là, j'ai un schéma que... Oui, j'ai quelques chiffres avec moi, mais je ne suis pas sûr qu'ils puissent satisfaire entièrement votre demande.
Bon, on va s'arrêter là.
Je vois qu'il y a un monsieur qui...
Bon.
Pourquoi Dieu, qui est le protecteur de ces sujets, n'a-t-il pas interdit formellement le suicide? Alors, ma réponse, j'essayais de la donner, mais je la répète et peut-être sera-ce plus clair. C'est que, de manière indirecte, par les récits, par l'optique générale qu'il nous communique dans la Bible, en nous présentant comme le cas le plus détaillé, le plus fortement mis en relief de suicide au cas de Judas, il nous montre bien que le suicide n'est pas selon sa volonté. Mais parce que il sait comment la destrudo, la pulsion de mort, s'empare de la loi dans le légalisme pour écraser encore davantage l'individu, il a préféré, sachant la dureté du combat de celui qui lutte avec la tentation du suicide, il a préféré ne pas formuler une loi qui, à ce moment-là, deviendrait un instrument d'écrasement supplémentaire. Voilà comment j'interprète le silence.
Merci, M. Boucher.